J'ai sollicité votre indulgence parce que j'ai envoyé une. J'ai répondu à l'appel à communication proposant un résumé suffisamment vague et en même temps relativement ronflant pour pouvoir être accepté en sachant pas à l'avance ce que j'allais dire parce que c'est un travail en cours. Et donc là, finalement, ce que je propose, c'est d'aborder la question du rétablissement à travers l'examen de certaines pratiques qui sont mises en œuvre là dans le cadre du terrain, le terrain sur lequel je suis actuellement, qui est une équipe mobile psychiatrie précarité. Une équipe mobile qui comporte trois psychiatres, un, deux, trois internes parfois en psychiatrie, un interne en médecine générale, un médecin généraliste, addictologue, un infirmier, une assistante sociale, un éducateur spécialisé, des agents administratifs et des médiateurs de santé. Donc une équipe pluridisciplinaire et qui revendique une approche très militante et qui revendique donc, enfin, et dont les responsables revendiquent le fait d'être la seule, enfin se déclare volontiers comme étant la seule équipe travaillant vraiment de manière orientée rétablissement. C'est l'expression émique, la traduction littérale de recovery oriented. Et voilà, je travaille désormais pour cette équipe, mais je l'observais déjà depuis quelques mois. Et donc là, ce que je présente, c'est pas le fruit du travail que je réalise pour l'équipe, mais c'est le fruit d'observation que je fais en même temps. Et donc, voilà, je me suis intéressé finalement là, et ce que je propose ce sont quelques pistes, quelques hypothèses qui surgissent là après un certain temps de terrain, à travers donc trois types de pratiques que je vais exposer, sur un peu quels sont les ressorts du rétablissement, en tout cas selon les personnes qui les mettent en œuvre. Enfin, j'ai essayé d'interpréter finalement, voilà comment ça fonctionne. Et donc, je vais présenter donc rapidement trois types de dispositifs soignants ou de nouvelles technologies institutionnelles ou de technologies institutionnelles innovantes, quoi, qui sont d'ailleurs désormais dans l'institution, mais qui sont le fruit, qui ont été importés, pardon, du monde anglo-saxon et qui ont été théorisées, construites principalement au départ par des usagers dans le cadre des mouvements anglo-saxons. Et donc, je vais commencer par. Enfin, il y a ces trois ateliers, ces trois pratiques, ont en commun de se dérouler sous la forme de groupes de parole, animés généralement par un médiateur de santé, éventuellement par un médiateur avec un infirmier ou un autre membre de l'équipe, mais c'est principalement un médiateur de santé. Je ne vais pas m'attarder sur la question des médiateurs de santé parce qu'il y aurait beaucoup à dire et on pourra y revenir après s'il y a des questions.
Je vais dire en deux mots ce que c'est que les médiateurs de santé, s'il y a des gens qui ne savent
Oui.
pas.
Et donc les médiateurs de santé, pour le dire rapidement, sont des personnes qui ont été recrutées là dans le cadre, enfin dans cette équipe, parce que en raison de leur parcours biographique, parce qu'elles ont fait l'expérience de la maladie, sont censées être rétablies, ou tout du moins stabilisées, et en mesure de travailler. Pour certaines, ont fait également l'expérience de la rue, ce qui est important là pour cette équipe. Et donc on mobilise souvent ce qu'on appelle donc leur savoir expérientiel dans toutes sortes de situations, et on les utilise on s'en sert, enfin, on utilise leur savoir, ils l'utilisent également, ils le mobilisent pour créer comme c'est l'expression qui revient souvent, créer du lien, inciter les gens à venir se faire soigner de leur propre chef. Donc on reviendra à la question des médiateurs si vous le souhaitez plus tard. Et donc les trois pratiques soignantes là que je vais exposer, donc il y a le Wellness Recovery Action Plan. Donc en français, là c'est la manière dont la terminologie est mise, qu'on appelle ça le VRAP, on utilise l'acronyme, le VRAP comme les sandwichs. Et donc c'est le plan d'action pour le bien-être et le rétablissement, si on le traduit mot à mot. Donc il y a cet atelier que je vais exposer de manière assez détaillée. Il y a également les groupes d'entendeurs de voix. Là, quelque chose qui est vraiment directement issu des mouvements d'usagers, notamment le mouvement, le Hearing Voices Movement, mouvement Intervoice également, donc qui ont, ça s'est vraiment mis en place au départ au sein d'associations d'usagers qui ont mis en place des groupes de soutien. Et il s'agit là de discuter des hallucinations auditives, des voix que l'on entend, et le postulat sous-jacent est que tout le monde peut faire l'expérience des voix, de l'entente de voix, pardon, et que c'est pas quelque chose qui est spécifique aux troubles psychiques en général. En tout cas, c'est ce qui est affirmé dans les débats publics. À chaque fois, on ressort des pourcentages allant de 10 à 15, on dit que de 10 à 15% de la population générale peut faire l'expérience au cours de sa vie de l'entente de voix. Et le troisième dispositif qui, lui, est vraiment émergent actuellement et qui est en train d'être mis en place par l'un des médiateurs de l'équipe, c'est les groupes de personnes ayant des idées non partagées. Donc c'est une locution pour traduire donc un autre dispositif qui vient également d'associations d'usagers du Paranoia Network, un mouvement anglais qui réunit des personnes qui souffrent souvent d'idées de grandeur, de délires de persécution. Et donc voilà, je sais pas si vous saisissez donc la traduction qui a été faite. Ils ont des idées non partagées, c'est-à-dire que leur vision du monde, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, n'est pas partagée par les autres et n'est généralement pas partageable. Donc moi aussi, j'étais assez hilar la première fois lorsque j'ai découvert la chose. Je me demandais comment ces gens pouvaient arriver justement à s'entendre et à former un groupe. Et finalement, donc c'est l'instigateur du mouvement qui lui-même donc a expliqué qu'il, Peter Bullimore, un Anglais qui est devenu un usager, qui est devenu chercheur par la suite, qui nous a expliqué qu'il pensait lui-même être Jésus il y a une vingtaine d'années et qui est maintenant rétabli. Donc c'est lui qui a mis en place ce mouvement et qui assure un peu la régulation et qui se présente comme là c'est une expression émique, un terme émique, facilitateur de groupe, quoi, donc régulateur. Je vais m'attarder là plus précisément sur le premier dispositif que j'évoquais, donc le VRAP. Et parce que finalement là, au-delà de début de ces trois dispositifs, ce qu'il y a de commun derrière tout ça, c'est ce qui m'apparaît là comme logique sous-jacente, c'est finalement pour permettre aux gens de participer à un groupe, de sortir de leur isolement, de parler de leur expérience. On est dans une conception du rétablissement qui est un peu bricolée, donc on prend des expériences à droite et à gauche, mais très militante, et on affirme avant tout que le rétablissement doit être social en plus d'être sanitaire. Et donc l'appartenance, le fait de faire participer les gens au sein d'un groupe est extrêmement important. Et pour ce faire, il faut arriver à trouver le dénominateur commun qui puisse permettre à des gens ayant des pathologies, des diagnostics différents, des parcours différents, leur permettre de participer à un groupe malgré la grande hétérogénéité de leur parcours, de leur syndrome, de leurs troubles. Et donc les ateliers les ateliers VRAP que j'ai observés, par exemple. J'en ai observé plusieurs sessions. Donc ça se déroule par trois sessions, sous forme de trois sessions de 2 heures, animées, comme je le disais, parfois avec un médiateur seulement. Une autre fois, j'y ai assisté avec un médiateur et un infirmier. C'est chose importante, la personne qui anime l'atelier doit avoir elle-même fait son VRAP, c'est l'expression qu'on utilise. Et je vais vous expliquer ce que c'est que faire son VRAP. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle pour pouvoir animer l'atelier. Et donc, dans le cadre de ces ateliers, j'ai pu observer qu'à chaque fois, il y a un petit nombre de participants. C'est un choix délibéré. Parce que ça demande beaucoup de travail, notamment sur l'explicitation, même des termes du petit manuel qui est délivré aux personnes qui participent, qui a été plus ou moins, enfin pas très bien traduit de l'anglais, il me semble, et qui est assez inintelligible au premier abord. Et donc, ça demande un certain travail. Et donc à chaque fois, en tous les cas, il y avait des personnes qui étaient, par exemple, le premier atelier auquel j'ai assisté, il y avait une personne qui était là essentiellement pour des troubles relevant du spectre de l'addiction, une personne diagnostiquée schizophrène, une personne diagnostiquée bipolaire. Et l'objectif, finalement, explicité au début de l'atelier, au début de la mise en place du groupe, mais ce qui va se faire finalement à l'insu des participants, et j'ai même l'impression parfois à l'insu des animateurs eux-mêmes, enfin, c'est le fait de passer d'un langage, de dépsychiatriser le langage et les mots qu'on met sur les troubles pour passer au langage commun. Et donc, on a une série d'items. Vous allez le voir, le VRAP donc se déroule en 8 étapes. Et donc, je vous rappelle l'intitulé, donc c'est le Wellness Recovery Action Plan. Donc, le bien-être est vraiment au centre. Et donc, la première étape, dans le cadre des ateliers VRAP, consiste pour les participants à définir ce qu'est le bien-être à leurs yeux. Donc ça, c'est quelque chose de relativement difficile pour tout le monde. Moi-même, je me suis plié à l'exercice, j'ai participé avec les autres, donc aller définir ce qu'est le bien-être. Deuxième étape, identifier les conditions de ce bien-être, et donc là, vous mettez en place votre boîte à outils du bien-être. Et donc, il y a un glissement là déjà sémantique. On parle plus de santé mentale, simplement de bien-être. Et ensuite, troisième étape, une fois qu'on a réussi, enfin si toutefois on a réussi à les identifier, pour ma part, j'ai pas été capable d'identifier toutes les conditions nécessaires à mon bien-être et de vraiment mettre en place ma boîte à outils. Mais une fois qu'on en a pris conscience, on est censé mettre en place donc des comportements et des actions qui permettent de le maximiser. C'est le terme qui est utilisé afin de mettre en place un programme journalier permettant d'être toujours en situation de bien-être. Et face à ce bien-être, on ne parle plus de décompensation. Tout ce qui menace le bien-être, on ne parle plus de décompensation, d'épisodes dépressifs, tous les termes que vous pouvez imaginer issus du langage psychiatrique, psychopathologique, on parle uniquement de crise. Tout est subsumé derrière le terme de crise. Et donc toutes les figures extérieures de l'adversité à laquelle sont confrontées des personnes souffrant de troubles psy, mais également les personnes ne souffrant pas de troubles psy, c'est ça qui est postulé parce qu'on essaye de former ainsi une communauté morale, le temps au moins de l'atelier, entre l'animateur et les participants. Et l'infirmier qui était là lui-même voilà, ne souffrait pas de troubles psy, mais explicitait voilà, le fait que lui pouvait aussi se retrouver en situation de crise sans rentrer dans les détails. Mais donc voilà, on passe de ce paradigme de bien-être versus crise, on en arrive à ça. Et donc, la quatrième étape, il faut dresser un inventaire des figures extérieures de l'adversité, qu'on appelle ici des déclencheurs, qui correspondent à des événements, des situations, des circonstances particulières qui peuvent mettre à mal l'équilibre de la personne. Étape suivante, on doit repérer en soi des changements émotionnels, ce qu'on appelle des signes avant-coureurs. Alors là, c'est là que tout se complique. On a la sixième étape, il faut aussi également identifier ce qui se passe. Là, c'est l'expression utilisée lorsque tout se dégrade. Autrement dit, donc lorsque les gens sont sur le point d'être en crise. Et ces trois étapes sont extrêmement difficiles. Difficile à séparer. J'ai observé ça pendant les ateliers. À chaque fois, c'était vraiment un casse-tête, autant pour les animateurs que pour les participants, à distinguer les trois étapes. Mais semble-t-il, ce travail marche, en tout cas pour certains. C'est en tout cas ce que disent les personnes qui ont fait le VRAP, qui ont fait leur VRAP. Et donc, on en arrive à la septième étape. Une fois qu'on a identifié tout ça, on élabore un plan de crise. Et il s'agit alors donc de consigner ce qu'on devra faire ou ce qu'on souhaitera voir faire par une personne extérieure si jamais on se trouve en situation de crise. Et là, donc, c'est quelque chose. On arrive déjà vers quelque chose qui va peut-être arriver bientôt dans le champ de la santé mentale, qui est la question des directives anticipées. Donc, dans le monde anglo-saxon, ça existe. Mais là, donc, c'est l'idée selon laquelle si on se retrouve dans un état où on n'est pas en mesure de donner son consentement, ou si on doit être hospitalisé sous contrainte et qu'on ne peut pas voilà, donner son consentement ni dire quels sont les traitements habituels que l'on a, on peut donner tout son VRAP, tous les documents qu'on a écrits à une personne de confiance qui se chargera donc de faire appliquer les décisions qu'on a prises, si on n'est pas en état de le faire soi-même. Et donc la dernière étape est celle de l'élaboration d'un plan d'après-crise. Et là donc c'est très paradoxal parce que lorsque les gens sont en train de participer à l'atelier, ils doivent déjà se projeter le fait de pouvoir éventuellement refaire une crise, quelle que soit sa nature, et ensuite se projeter également dans l'après-crise, quoi. C'est-à-dire que paradoxalement, pour pouvoir faire convenablement remplir ce huitième item, il faudrait qu'ils aient connu une nouvelle fois une situation de crise. Donc c'est à chaque fois quelque chose, ça donne de lieu à des situations assez cocasses, quoi, où les participants ne savent pas quoi écrire. Et donc, avec ce plan de crise, on doit en arriver donc à faire un bilan qui permettra donc par la suite d'améliorer son bien-être dans l'éventualité où l'on referait une crise. Et voilà, donc puisqu'il me reste très peu de temps, je vais aller très rapidement sur la question par exemple des groupes d'entendeurs de voix. Donc là, ces groupes depuis quelques temps donc maintenant sont institutionnalisés dans la mesure où ils sont pratiqués donc dans le cadre institutionnel et non plus uniquement dans le cadre associatif. Les cliniciens savent que l'on peut faire par exemple l'expérience des hallucinations auditives, par exemple dans le cadre lorsque l'on souffre de schizophrénie ou de troubles bipolaires. Et là, finalement, donc, en même temps qu'il y a un glissement sémantique, il y a finalement, peu à peu, et ça je l'observe en parlant avec les gens qui participent aux ateliers, parce que j'ai malheureusement pas pu pour le moment observer ces ateliers parce que j'ai pas. On me l'a refusé parce que j'avais pas la chance d'entendre des voix. Mais je m'imposerai, j'y arriverai un jour. Mais en tous les cas, en parlant avec les gens, finalement, peu à peu, les gens donc se réapproprient ce langage, de même qu'ils se réapproprient, ils s'approprient totalement le langage du VRAP, et donc les gens se définissent peu à peu, et sont définis même par les professionnels comme entendeurs de voix, enfin les professionnels de l'équipe en question, et donc il y a finalement leur identité se déplace donc vers du diagnostic peu à peu vers une identité plus ou moins assumée qui est celle d'être entendeur de voix, qui est très assumée dans le champ quand les gens sont intégrés au impliqués dans le militantisme associatif, moins dans le cadre institutionnel, mais peu à peu tout de même ils le prennent à leur compte. Et c'est en tout cas la reprise à son compte du langage utilisé dans le cadre de ces ateliers. Ça, j'ai pu l'observer avec le VRAP en parlant avec des gens que j'avais observés il y a 10 mois déjà participer à des ateliers et avec qui je suis en contact via d'autres dans une association d'autosupport. Et donc j'étais confronté à une personne qui a voulu se confier à moi parce qu'elle savait, on avait fait connaissance lors de cet atelier, et qui me racontait justement ses difficultés et qui me parle tout d'un coup de actuellement, il y a eu des déclencheurs, je ressens les signes avant-coureurs, si je continue à travailler, je vais arriver en crise. 10 mois plus tard, alors que cette personne auparavant utilisait la terminologie psychiatrique en parlant d'épisodes dépressifs, de reprise des hallucinations, enfin de réminiscence des hallucinations, c'était pas le terme qu'elle utilisait, mais en tout cas les gens se réapproprient complètement ce langage, et c'est ça que je trouve paradoxalement, enfin que je trouve assez intéressant, parce que paradoxalement ces dispositifs très très militants et qui cherchent un peu les responsables de l'équipe revendiquent une autonomisation, une émancipation des individus vis-à-vis justement des contraintes institutionnelles au sens large. Et là, on voit finalement les individus appropriés, incorporés, intériorisés tout ce nouveau langage institutionnel qui, en tout cas dans ce cadre bien particulier, remplace le langage utilisé habituellement. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler des idées non partagées, mais on en aurait pour un bon moment.
Merci beaucoup, Julien. Une question ? Oui, une question. Bien sûr, on a un temps pour discuter. Il y a des questions ? Il y a des questions ? Moi, j'en ai. Non, si. Vas-y.
C'est cette idée de langage, de passer à un langage commun. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs choses. Il y a à la fois d'offrir des termes, d'imposer des termes, en fait, crise. Mais c'est aussi d'imposer des mots. En fait, c'est comment en fait ils apprennent ce langage commun. C'est, a priori, s'il y a un langage commun, c'est qu'à un moment ils l'apprennent. Est-ce qu'on leur impose ? Parce que ce langage commun, c'est aussi une expérience de la maladie, comme le fait de pas pouvoir. Enfin, pour accéder même à ce langage commun, il faut déjà être malade, entendre des voix, par exemple, pour rentrer dans le groupe d'entendeurs de voix. Donc c'est un langage, mais c'est aussi une condition. C'est-à-dire qu'il faut avoir une condition pour accéder à ce langage, pour au moins pouvoir apprendre ce langage. Et en fait, c'est ma question, c'est comment est-ce qu'on passe à ce langage commun et comment est-ce qu'on se met à le partager ? Est-ce que c'est très formalisé ? Par exemple, si on ne veut pas utiliser le terme de crise, est-ce qu'on est exclu du groupe ? Est-ce que c'est des termes qu'eux-mêmes peuvent apporter et peuvent se mettre à partager entre eux ? Est-ce que c'est pas aussi facile à cerner ?
Là, dans ce cadre-là, si par exemple les usagers ne veulent pas reprendre le langage commun, par exemple, et ne pas utiliser le terme de crise, il y a une certaine indulgence de la part de l'équipe à leur égard. Mais la plupart se l'approprient très facilement, d'autant plus que les gens qui sont suivis par l'équipe sont souvent issus de d'origine de milieux sociaux populaires, ont vécu l'expérience de la rue, et ce langage commun est aussi une manière, enfin, d'offrir un langage que chacun puisse s'approprier, et donc ils se l'approprient facilement pour la plupart d'entre eux. Et l'indulgence, voilà, que je mentionnais à l'égard des usagers, par contre, elle est pas du tout, il n'y a pas du tout d'indulgence à l'égard des professionnels lorsque quelqu'un utilise le terme de décompensation. Là, par contre, lui va être repris, recadré par un de ses collègues aussitôt.
Parce que c'est trop médicalisé.
Oui, oui. Alors qu'on est justement dans un cadre médical, mais.
Et donc quelqu'un qui, par exemple, rentre dans un groupe de personnes ayant des idées non partagées, s'il dit « je suis psychotique », on va lui dire « non, tu as des... » Ou si tu es paranoïaque, en fait, on va lui dire « non, tu n'es pas paranoïaque, tu as des idées non partagées ».
Eh ben, le dispositif qui se met en place, c'est d'essayer d'abord de faire expliciter à la personne quel est l'objet de son délire, son modèle explicatif, c'est même le terme qui est utilisé, le terme de Kleinman, par le Peter Bullimore. De lui faire expliciter son schéma explicatif. On fait un travail sur son parcours biographique. Et semble-t-il, les gens, peu à peu, déjà à la base, ont du mal à se reconnaître comme paranoïaques. Ça, c'est propre aussi au trouble d'après la psychopathologie, quoi. Mais en plus. Une fois qu'ils sont entrés dans le groupe, ils s'approprient justement cela, d'autant plus que on fait comprendre que finalement tout peut se résumer. Il y a un autre langage qui est utilisé, là j'ai pas pu l'aborder, mais dans le cadre des idées non partagées, qui est le langage des émotions. Et on leur fait comprendre que finalement, derrière le délire, derrière toutes les idées de grandeur, généralement il n'y a que soit de la peur, soit de la tristesse. Et là aussi, on a ces deux vocables qui viennent subsumer de manière parfois artificielle, hein, même l'expérience des sujets, c'est parfois imposé, mais ça permet à chacun de sortir des schémas explicatifs biomédicaux, psychiatriques.
Moi, j'ai une question qui est
je voudrais
connaître
l'effet du genre.
Est-ce que tu as élevé collectivement le niveau de la voix? Parce que je l'entends.
Je voudrais connaître l'effet du genre dans l'appropriation.
Oui. Alors là, justement, le biais très important, c'est que là, j'ai vu que des hommes dans les ateliers auxquels j'ai pu assister pour le moment. Alors, c'est en grande partie lié à la file active de l'équipe. Et qui est composée à, je ne connais pas les chiffres, mais qui est majoritairement masculine.
Donc là, c'est donc un public de rue, monsieur, où il y a en gros 15% de femmes dans la rue.
Oui, non, mais et du coup, j'ai pas d'éléments, par exemple, sur ce qui se joue pour les femmes dans ce cadre-là.
Mais quand on parle du genre, c'est non seulement en fait le sexe, mais c'est aussi la socialisation féminine ou masculine. Donc, après, peut-être vous n'avez pas distingué, par exemple, parmi ces hommes qui habitent dans la rue, est-ce qu'il y a certains qui sont homosexuels? Je ne sais pas, c'est une
Oui, non. Malgré ça, de toute façon, il y a une espèce de processus, quoi, pendant toutes ces étapes, qui consiste à gommer toutes les singularités de chaque individu et les manifestations idiosyncrasiques de la maladie, et également toutes les singularités, ce qui fait que tout le monde en arrive à partager le même idiome à la fin des sessions. En tout cas, toutes les personnes qui ont accroché, entre guillemets, le partage.
Tu fais une question?
Du coup, oui.
Vas-y, Hélène.
Je me demandais si, en fait, parce que il y a l'élaboration d'un langage commun qui est important, mais je me demandais est-ce que, au sein de ce groupe, il y avait quelque chose qui relevait plus d'un recodage des sensations. Parce que par exemple, quand tu dis, voilà, de cette étape où ils en viennent à dire lorsque tout se dégrade en même temps, ça peut donner l'idée d'une certaine sensation, d'une certaine ouais. perception. Est-ce que du coup, il y a un travail de recodage des sensations? Est-ce que ce langage, finalement, en arrive à refaçonner l'expérience sensorielle de ces personnes? Enfin voilà, c'est un peu la question que je me pose.
Ouais, eh bien, a priori, justement, j'ai pas pu justement le creuser cette question, et c'est l'étape suivante, parce que je souhaiterais faire des entretiens avec les personnes qui ont suivi ces ateliers, parce qu'au moment des ateliers, il y a plusieurs étapes, et notamment celle-ci, au cours desquelles chacun reste seul devant sa page blanche et va la montrer éventuellement au médiateur pour et discuter en aparté, mais on partage pas ou peu justement ce qui se joue pendant cette phase, et les gens sont extrêmement pudiques les uns vis-à-vis des autres, et enfin il y a une retenue très importante pour diverses raisons, et là donc c'est pour ça que je sollicitais votre indulgence aussi au départ. C'est un travail en cours, et l'étape suivante, c'est justement, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je pense que justement il y a c'est le ressenti que j'en ai, en tout cas, hein, qu'il y a un recodage totalement des sensations et de tout, toute l'expérience au sens phénoménologique.
Ouais. Ok, donc là il nous reste encore 3-4 minutes. Je propose qu'on prenne une série de questions qui restent et on fait une réponse groupée. Donc voilà.
Un commentaire sur la question du bien-être. Est-ce que c'est perçu comme quelque chose qui est construit spécifiquement par cette organisation? Parce que le concept de bien-être est devenu central dans le discours de l'OMS. Hein,
oui.
Pour la santé mentale, pour la santé sexuelle, enfin, toutes les définitions de la santé sont fondées sur la question du bien-être. Donc justement, ce lien entre le global, disons, et le spécifique, est-ce que c'est vécu comme quelque chose de marginal ou d'alternatif, ou est-ce que c'est vécu comme étant dans le mainstream de l'OMS finalement?
Eh bien,
non, on va prendre les questions et ouais. après tu fais une réponse générale.
Moi, je voulais savoir comment ils s'appropriaient ce vocabulaire, en fait. Est-ce qu'il y avait des lectures? Est-ce qu'on leur donnait des livres à lire? Parce que, du coup, moi, dans mon enquête, j'ai beaucoup vu les thérapeutes donner des bibliographies. Et du coup, sur cette question des lectures, je me demandais... parce que le fait de pouvoir s'approprier un langage, etc., tu associais ça notamment au fait que ce soit des gens qui viennent des classes populaires, alors qu'on peut observer, par exemple, dans les TCC, que le discours managérial de l'intime va assez bien finalement avec des classes d'un milieu supérieur, parce que c'est des discours qui sont assez emprunts dans ces milieux. Et l'autre question, donc je voulais savoir si les modes d'appropriation. Et ensuite je me demandais comment tu avais réfléchi à la question de l'honnêteté sur le fait de dire que tu n'entendais pas de voix, parce que ça me paraît quand même assez subjectif. C'est comme entrer dans une église ou pas, enfin le rapport au baptême ou à la communion. Est-ce que finalement, enfin, on pourrait discuter du fait de ce que c'est entendre une voix ou
oui.
dans quelle mesure c'est honnête ou pas de dire oui ou non, parce que ça peut être autre chose pour chaque, enfin, ça peut être quelque chose pour chacun d'entre nous d'entendre une voix. Si on va au bout de leur discours de dénormalisation de. Mais du coup, quelle est leur argumentation est-ce que c'est comme le sacré? S'il y a une personne qui n'a pas entendu de voix dans la pièce, est-ce que ça affaiblit la puissance du groupe que d'avoir une personne extérieure?
Moi, c'était juste un commentaire, en fait, en vous écoutant, je me suis demandé s'il y avait des parallèles à faire sur... En vous écoutant, je me demandais s'il n'y avait pas un parallèle à faire avec l'hypnographie des alcooliques anonymes sur des processus comme ça, à la fois d'acquisition d'un savoir sur soi, sur sa maladie, mais en même temps très normatif, assez ritualisé, sur une culture américaine de l'autonomie aussi. Et du coup, jusqu'à quel point ce modèle peut, bien sûr, avec des limites, puisque là on est sur une pathologie mentale, on voit bien que c'est beaucoup plus fin. Mais je me disais que voilà, ça me faisait penser un peu à ça aussi.
Moi j'ai une dernière question rapide sur le VRAP. Donc il y a toute la première partie de l'identification du bien-être, des éléments qui peuvent mettre en péril ce bien-être, desquels il faut arriver à se prémunir, etc. Et puis ça se termine par le plan de crise. Par rapport à la première intervention où il y avait cette idée où les professionnels pouvaient évaluer en disant bon bah ça y est, on a réduit les symptômes, c'est bon, on a gagné, ça a fonctionné. Est-ce que tu as pu observer des plans de crise qui ont fonctionné ou pas, voilà, qui ont été mis en application Et maintenant, tu as le challenge de répondre à toutes ces questions en 2 minutes.
Alors, je vais répondre à la première tout de suite, à la dernière en premier. Tout de suite, je rebondis. J'ai pu en observer un avec la personne là que je citais très rapidement. Parce que voilà, je suis secrétaire de l'association dont il est salarié, l'association d'autosupport, et donc en tant qu'employeur, voilà, il m'a sollicité lorsqu'il était face à des... Il était justement presque en crise, et donc là, visiblement, le plan avait fonctionné. Il avait pu justement se préparer à ça, trouver. Il avait détecté des signes avant-coureurs, etc. Après, le plan d'après-crise et sur d'autres situations, j'ai pas d'éléments pour le moment. Par contre, j'ai rencontré des tas de gens qui sont toujours hospitalisés et qui disent c'est super le VRAP. Mais qui sont toujours hospitalisés depuis un an, et je les ai rencontrés, ils sortaient de l'hôpital pour faire leur VRAP, et ça n'avait pas... Donc celle-là, c'est vraiment très... J'ai pas plus d'éléments que ça. Après, je vais revenir à la première question. Alors, par rapport à la question du bien-être, c'est vraiment... Là, il s'agit de définir ce qu'est le bien-être aux yeux de chaque individu, quoi. C'est vraiment pas normatif du tout. Chacun voit le bien-être à sa porte, entre guillemets, c'est comme ça que sont conçus les ateliers. Il y a un temps vraiment relativement long par rapport à d'autres étapes qui est pris pour que chacun comprenne que ce qu'il considère comme étant son bien-être n'est pas forcément ce que l'autre va considérer comme étant l'idéal Et les animateurs des groupes insistent vraiment sur ce point, enfin sur le fait que eux-mêmes n'ont pas de définition de ce que doit être le bien-être, de ce que doit être une vie bonne ou entre guillemets. Et donc c'est vraiment à chacun de définir ce qu'il estime être son état de voilà son meilleur son bien-être. Je n'ai pas d'autres mots.
Vous considérez qu'il y a vraiment une autonomie complète entre ce discours qui est quand même devenu épistémique dominante, enfin, du bien-être, et le groupe de ceux qui ne pensent pas comme les autres. Chacun va avoir vraiment une définition qui n'a rien à voir avec le l'ère du temps. Parce que c'est devenu une catégorie politique, si vous voulez. Le bien-être qui se substitue à des catégorisations subjectives.
Oui, mais enfin là, en tout cas, dans le cadre, c'est vraiment dans le cadre du VRAP. Par exemple, là, il y avait un usager de drogue, un travailleuse là qui était là et qui, pour lui, son état de bien-être, c'était de ne pas être en manque, de pouvoir accéder à tous les produits, de ne pas être, pas avoir manqué d'argent à la fin du mois et de pas risquer de faire des conneries. Enfin, et il y a une tolérance. Très importante quoi de la part des animateurs et des médiateurs par rapport à toutes les situations possibles. Là, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Et on est dans un espace, il me semble, quand même un petit peu à part, quoi, où on laisse chacun exprimer voilà ce qu'il est.
Ce qu'il estime être son bien-être. Qui portera son bien-être en partie à Franck Enjolras, ici présent.
Donc, j'ai écrit 1 minute pour la dernière question.
Et puis après, oui, sur les modes d'appropriation, là aussi, c'est autre chose que je souhaite creuser en faisant des entretiens avec les personnes qui ont suivi les ateliers. Parce que, en effet, les lectures, il y en a peu. J'ai l'impression que là aussi, c'est à partir des observations, des conversations informelles, que c'est aussi le fait de reparler du VRAP, quand les gens se croisent, ah toi t'as fait le VRAP, et les gens, voilà, on discute entre eux, et il y a petit à petit, oui, une espèce de culture commune qui se forge, et j'ai l'impression, le ressenti, que c'est comme ça que ça se construit, et ça sera éventuellement à confirmer ou à infirmer par la suite. Sur la question d'entendre de voix, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui animait les ateliers au moment où j'ai voulu assister pour la première fois, je pense, est un peu en situation délicate elle-même vis-à-vis de ses voix. Sur le plan professionnel, parce que ça fait pas longtemps qu'elle anime ses ateliers, et à cause de ma position, ça faisait pas longtemps que je venais d'être embauché dans l'équipe, en tant que chercheur, identifié comme proche des responsables de l'équipe. Et j'ai senti qu'il y avait énormément de crainte d'être évalué. Et elle m'a dit tout de suite, cette personne, mais c'est pour m'évaluer, c'est pour évaluer l'atelier. Et elle m'a dit tout de suite, de toute façon, c'est ouvert qu'aux entendeurs. Et j'ai même pas le temps de dire, j'entends ou j'entends pas des voix, mais elle m'a pas posé la question, mais ça a été, et j'ai pas insisté. Et je pense que petit à petit, plus tard, ça pourra se faire. Je sais que dans d'autres espaces, c'est accessible aux non-entendeurs. C'est comme ça que c'est exprimé. Certains non-entendeurs peuvent y assister. Et puis juste dernier, rapidement, oui, sur les alcooliques anonymes. En effet, j'aurais pu faire une autre communication là-dessus, mais tout le mouvement du rétablissement, sa matrice originelle, c'est le mouvement, voilà, l'autosupport et les alcooliques anonymes. La renaissance, born again. Et donc, oui, évidemment, il y a énormément de parallèles à faire.
Merci beaucoup. Et on passe donc sans transition à la dernière communication, ainsi la transition, le temps d'installer le PowerPoint.